J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme française. Le genre de femme qui préfère parler légèrement de choses graves que gravement de choses légères. On ne sait pas toujours ce qu'elle pense tant elle aime converser. Et dans sa conversation, rebondir, sourire, repartir. Le matin, elle écoute Barbara et trouve que c'est une meilleure morning routine que le yoga du visage ou des exercices de pensée positive. Ce sont les chansons les plus tristes de Barbara qui la mettent en joie. Il faut qu'il pleuve sur Nantes pour qu'elle se lève du bon pied. Et cela aussi, je crois, est très français. Une élégance, mais sans l'évitement de ce qui fâche. Sa légèreté est à ce prix. Elle sait ce qui est lourd, mais elle n'en fait pas une maladie. Barbara, elle aussi, a connu la violence et la nuit, mais elle était capable, tout le monde l'a dit, d'une vraie joie de vivre au quotidien. Elle aime converser, mais n'aime pas s'emporter. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle ne les crie pas qu'elle n'a pas de conviction. La laïcité serait plutôt sa tasse de thé, et elle a en horreur le légalisme, la soumission aveugle à l'autorité. Le genre de femme qui fait exprès de laisser tomber son mouchoir sale sur un trottoir à Genève ou à Lausanne, juste pour voir la gueule des Suisses. Lorsqu'elle se fait cambrioler, elle pense avant tout aux stances à un cambrioleur de Brassens, et c'est après seulement qu'elle songe à porter plainte. Une élégance française, un esprit de liberté, d'impertinence et de légèreté. D'ailleurs, elle n'ira pas à porter plainte. Se plaindre, c'est pas son truc. Elle entend souvent que les Français aiment se plaindre, mais elle, c'est en un autre sens qu'elle se sent française. Elle se sent française comme Romy Schneider dans César et Rosalie, ou comme Zao de Sagazan quand elle chante au travers. Tout cela n'est pas très cohérent, puisque Romy Schneider était autant allemande que française, mais justement, l'esprit de système et de cohérence, c'est pas trop son truc. Son truc à elle, c'est l'esprit français. Voltaire, Sagan, Brassens, qui disait qu'à plus de deux, on est déjà une bande de cons, et Barbara le matin, en se lavant les dents. Pour en parler ce matin, justement, de cet esprit français, en fait, si dur à définir, j'ai la joie de recevoir une femme, journaliste, documentariste, qui fut commissaire des expos. Alors, il y en a plein. Brassens à la Cité de la Musique, Romy Schneider à la Cinémathèque, Barbara à la Philharmonie de Paris, Doineau et la Musique à la Philharmonie aussi, et qui réalisa un joli documentaire sur Doineau qui s'appelait « Le révolté du merveilleux ». Clémentine Deroudy est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon, et en sa compagnie, nous allons essayer de définir l'esprit français. Comment faire vivre les plus belles icônes populaires françaises sans tomber dans le populisme?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Clémentine Deroudy.
Bonjour.
Alors, vous faites un beau métier. Vous montez des expos de dingue sur des grandes figures françaises, Doineau, Brassens, Barbara, bientôt Belmondo, même par le passé Louis de Funès. Qu'est-ce que ça vous a appris? Désolé, c'est un peu frontal comme première question. Qu'est-ce que ça vous a appris de la France, de faire tout ça?
Alors, de la France, j'en sais rien, parce que ça n'a jamais été le prisme qui a été le mien, en fait, de savoir, de défendre une certaine idée de la France.
Oui.
En tout cas, ce qui m'a le plus emporté, ce qui m'a le plus passionné, c'est de voir, en fait, que la France, elle était multiple, en fait. Oui. Moi, je pense, par rapport à tous ces personnages, et qu'ils étaient tous, à part mon grand-père, parce que je suis la petite-fille de Robert Doineau.
Alors hein. Ça, j'avais prévu dans la dramaturgie de le dire à la fin, vous m'avez brisé, en effet.
Désolée.
Oui, vous êtes la petite-fille de Doineau.
Et donc, effectivement, il est devenu une certaine image de la France à travers le monde. Donc moi, je suis aussi devenue une certaine image de la France. Ouais. Voilà. Donc souvent, on pense des choses de moi qui ne sont absolument pas, qui ne m'appartiennent absolument pas. En tout cas, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'ils étaient tous étrangers, en fait. Voilà. Ils viennent tous d'ailleurs.
Bah oui.
Et donc peut-être que c'est les étrangers qui parlent le mieux de la France.
Et c'est peut-être ça aussi, l'esprit français, c'est de savoir s'ouvrir à ce qui n'est pas soi.
Exactement.
Et il y aurait dans cette hospitalité peut-être quelque chose qui définit la France. Ça n'empêche pas, d'ailleurs, la gauche d'aujourd'hui a raison de montrer que l'immigration peut poser des problèmes. Je pense qu'il faut avoir cette lucidité. Mais ça n'empêche pas de rester, au fond, par essence, une terre d'accueil. Mais je reviens à votre grand-père, donc Doineau, puisque vous m'avez obligé à en parler tout de suite. À chaque fois, vous dépoussiérez, vous cassez un peu des légendes, un peu mièvres. Vous l'avez fait pour Brassens, on en parlera.
C'est pas les légendes, c'est-à-dire que quand les gens deviennent incroyablement célèbres, mon grand-père est devenu célèbre par inadvertance, hein, c'était le baiser de l'hôtel de ville, et puis après, il est devenu bien plus célèbre après à sa mort, grâce à tout un travail, hein, ça on en reparlera aussi, c'est qu'il faut faire continuer à travailler toutes les personnes disparues pour qu'elles continuent continue à vivre et qu'elle nous enseigne des choses. Mais en tout cas, voilà, il devient des statues. Brassens, on avait une image de lui un peu caricaturale. Mon grand-père aussi, avec les amoureux et les écoliers. Barbara, c'était la grande dame noire. Romy Schneider, ouais. C'était cette femme disparue trop tôt, très malheureuse. Et en fait, moi, je dis, mais non, c'est pas du tout ça. En fait, je vais vous montrer, je vais vous raconter une histoire, puis je vais vous raconter, en fait, la vraie histoire, j'en sais rien, en tout cas celle qui me semble être la plus intéressante et la plus complexe. En fait, on est tous des êtres extrêmement complexes, et c'est très facile de mettre des gens dans des cases qui rassurent, qui nous donnent une certaine image qui est parfois, oui, un peu ringarde.
Devenir un petit photographe sautillant, c'est vraiment une preuve de désobéissance, car la désobéissance et la curiosité sont les deux mamelles de ce métier.
Alors c'est votre grand-père, Doineau, la désobéissance et la curiosité.
Ouais, absolument. Bah, je pense que je l'ai un peu irrité de lui, mais oui, d'être curieux, curieux de tout. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a passé sa vie à travailler en commande aussi. Il faut aussi penser à cette notion du travail, de ces gens qui n'ont jamais cessé de travailler. Mais il s'accordait chaque jour des moments pour lui, des jardins buissonniers, quoi, où tout d'un coup, il allait voilà, regarder, s'intéresser aux autres. L'ouverture d'esprit, ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et désobéir, qui est très français et qui est merveilleux,
voilà.
Comme Brassens.
Le révolté du merveilleux, c'est ça le titre de votre documentaire sur votre grand-père. Et vous essayez de montrer qu'on a une image de lui un peu sépia, un peu romantique, un peu mièvre, et qu'il était tout à fait autre chose. Quelle était sa révolte ?
L'absolu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte que en fait, la plupart de ces images étaient pour dénoncer en fait, dans le monde dans lequel il vivait. Mais tu peux dénoncer avec... en rendant hommage, voilà, il rendait hommage aux ouvriers, il rendait hommage aux gens qui se levaient matin très tôt pour aller aux usines. Il le connaissait, ce monde-là, parce qu'il l'avait côtoyé aux usines Renault. Et lui, sa manière à lui de le rendre supportable, c'était aussi de l'immortaliser. Quand il photographiait la banlieue, c'était pas pour dire regardez la beauté de ces lieux. Au contraire, c'était pour dire regardez dans quel endroit on vit. Voilà, et comme il disait, quand il a commencé à photographier la banlieue en couleur dans les années 80, il disait c'est toujours aussi moche. C'est différent, voilà. Et puis toujours le pas de côté, toujours essayer de s'amuser, d'essayer de trouver de la joie, c'est essentiel en fait en ce moment. En ce moment, on rentre dans une période si difficile, c'est pour ça que moi, de convoquer tous ces êtres merveilleux, c'était des gens qui, malgré leur vie très difficile, parce qu'aujourd'hui, quand les gens ont du succès, etc., voilà, on a toujours l'impression que les vies sont toujours faciles, qu'ils passaient de bistrot en bistrot avec ses copains, c'était tout le contraire. Voilà, parler du merveilleux et parler du fait que c'est des gens qui aimaient énormément rigoler.
Mais attention, du merveilleux, de la joie, mais pas du tout dans l'évitement de ce qui pourrait fâcher.
Mais
pas du tout dans une sorte de d'auto-persuasion positive. Et vous savez, il y a une très belle phrase de Jean Giraudoux qui dit la chose suivante, l'esprit français, au lieu d'être la négation ou l'ignorance des puissances du mal, les présuppose et bâtit sur elles, en est le seul antidote. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans votre travail, de montrer que ces gens regardent en face la réalité, ils ont de la légèreté, de la joie, mais ils regardent en face ce qui est moche, comme l'a dit votre grand-père ?
Oui, complètement. Brassens y dénonçait. Barbara, d'une certaine manière, l'énorme succès de Barbara aussi, c'était aussi de parler de choses que non, aucune femme n'avait parlé jusque-là en chanson. Oui, effectivement, et de le rendre beau, c'est-à-dire que la vie, elle est multiple, en fait. Il n'y a aucune naïveté, il n'y a aucune... voilà. Mais tu peux parler de toutes ces choses, de cette vie, voilà, avec tendresse, avec beauté aussi, voilà, d'apporter de la beauté, c'est très, très important.
Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se...
Clémentine de Rudy, peut-être la plus belle chanson de tous les temps. Et ce qui est très beau chez Barbara, c'est que, comme je le disais au tout début, tout le monde disait que malgré ce qu'elle raconte, malgré la violence, l'inceste, très probablement. Elle avait une incroyable joie de vivre quotidienne. Mmh. Mais encore une fois, une joie de vivre qui n'était pas dans le déni. Elle n'était pas en train de se faire sa morning routine pour dire que tout va bien, ouais, comme on l'a évoqué au début. Et c'est ça, peut-être, qui est très français. Et il y aurait cette élégance-là. Alors, ça, c'est important, parce que le mot élégance, souvent, on entend des gros clichés sur l'esprit français, ce serait le luxe, l'élégance, mmh. la haute couture et la grande gastronomie. Alors, mmh. peut-être, mais c'est tellement superficiel mmh. comme approche. Pour moi, la vraie élégance, c'est Barbara.
Mmh. Ah bah, je suis tellement d'accord avec vous. Et puis, c'est aussi déguiser sa singularité. L'élégance de Barbara, c'était effectivement, et puis des autres aussi, hein, enfin, de jamais se plaindre, d'être élégant et de choisir sa vie. Je veux dire, aux années dans lesquelles elle l'a fait, il y avait peu de femmes qui l'ont fait. Enfin, le courage, on n'en parle pas aussi de ça, le courage de sa liberté. Et Barbara, le fait de vivre dans sa roulotte qui était sa voiture et d'aller de théâtre en théâtre, de montrer aussi à quel point c'est le public et si la chanson, en fait, qui l'a guérie et qui lui a permis d'être cette femme qui chante, d'être cette femme si joyeuse, voilà. Et puis c'est toujours beaucoup plus facile de montrer quelqu'un dans son désespoir, de montrer, regardez, elle était très malheureuse. Non, Barbara, c'était absolument pas ça. Barbara, c'est quelqu'un qui embrassait la vie, c'est quelqu'un qui, au contraire, ah oui. s'est mis à vivre vraiment grâce à la scène, grâce aux rencontres, grâce à la chanson. Et ça, c'est magnifique.
Et vous savez qu'il y a un philosophe, Clément Rosset, qui parle beaucoup de cette voix contrariée, notamment dans son livre La Force Majeure, et il explique que la vraie joie, elle est toujours entravée. Et que si elle n'est pas entravée, c'est que c'est qu'on se ment, c'est que c'est illusoire. Et il dit, la joie est paradoxale, on n'est pas la joie. Et ça, c'est l'esprit français, je trouve. On ne le dit pas assez souvent, et dans un numéro de Philosophie Magazine consacré à l'esprit français, il y a un entretien où Clément Rosset explique que finalement, cette joie tragique un peu, cette élégance jusque dans ce qui est dur, c'est peut-être la France.
Certainement. C'est marrant parce que je travaille beaucoup avec Johan Sfar, le dessinateur, parce que je travaille beaucoup avec des dessinateurs de bande dessinée. Et Johan convoque beaucoup la pensée de Clément Rosset.
Et c'était son prof à Nice.
Voilà, j'allais vous le dire. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est une décision aussi, hein, la joie. C'est un courage. C'est une manière de regarder la vie. Voilà. Et que tous ces aides dont on parle, tous ces artistes, etc., nous aident. Et je pense que je voudrais vraiment dire aussi quelque chose qui me semble essentiel en ce moment, c'est la joie, elle vient aussi de l'admiration. Et je pense qu'en fait, on est toujours dans un esprit critique, il faut critiquer, et on apprend à nous diviser beaucoup en ce moment. Et en fait, je pense qu'il est essentiel d'admirer, je pense qu'il devrait y avoir des exercices d'admiration, moi le matin à l'école, moi je prône ça. Je sais qu'en fait, par exemple, en ce moment, je travaille sur Jean-Paul Belmondo. Ouais. Et ben d'admirer cet homme, mais quelle merveille, c'est des êtres qui vous aident à vivre en fait. Quand vous dites qu'on écoute Barbara le matin, ou qu'on convoque une phrase de Brassens, ou qu'on regarde une image de Doineau, ou quand on entend par exemple la chronique de François Morel la semaine dernière sur Inter, c'est des aides qui vous aident à vivre. C'est des marchepieds au rêve, c'est nos antidépresseurs à nous. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et je trouve qu'en ce moment, on n'en parle pas assez.
Mais vous avez tout à fait raison. Vous êtes une grande admiratrice. D'ailleurs, tous les grands artistes ont été de grands admirateurs. Exactement. Et aujourd'hui, dans notre temps d'égalitarisme et de comparaison un peu moisie, on pourrait avoir l'impression que si j'admire quelqu'un de grand, je me sens tout petit, alors que c'est le contraire. Comme l'a très bien dit Nietzsche, quand j'admire quelqu'un, il me tend le bras pour que je développe ma singularité à moi, non pas dans l'imitation, mais dans une sorte d'exemplarité. Si lui, il est devenu admirable, en partant de son terrain à lui, c'est que moi aussi, peut-être, à ma façon, je pourrais le devenir. Et c'est ça, votre travail de commissaire d'expo.
Complètement. Mais alors, complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, alors en caricature, de tomber amoureuse, mais c'est véritablement la rencontre que j'ai eue avec Brassens. C'est vraiment, j'ai rencontré un homme, vraiment, que j'ai absolument adoré. Et en fait, moi, il faut ça, il faut que j'admire. Et il faut qu'en fait, toutes les personnes que je découvre, que je rencontre, sur lesquelles je travaille, m'apportent quelque chose. Et comme vous dites, moi, je le mets dans ma besace et en fait, je deviens quelqu'un d'un peu mieux. En tout cas, je l'espère, vraiment. C'est très important.
Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus.
Alors, Clémentine Desrosiers, c'est un plaisir de revisiter tout ça. Et je précise, bien sûr, et c'est ça votre travail, que vous faites quelque chose de très moderne. Ces figures sont classiques, elles ont un certain temps, un certain âge, mais vous convoquez des musiciens, comme Moriarty, vous convoquez des dessinateurs, comme Johann Sfar. D'ailleurs, c'est avec Sfar que vous avez fait Brassens.
Oui.
Et puis, vous avez aussi monté, d'ailleurs, l'expo Johann Sfar, hommage à Paris,
exactement,
qui était magnifique, La vie en dessin, je crois, La vie dessinée. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est aussi de parler aux jeunes, de montrer que c'est pas ce qu'on croit.
Oui, c'est de montrer que c'est complètement intemporel, que c'est des personnalités, voilà, elles sont, voilà, elles ont parfois certaines en commun une période, mais montrer que quand t'es un grand artiste, voilà, t'appartiens à tous les temps. Donc ça, ça me semble très important. Et puis de parler à tous les jeunes et montrer leur modernité. En fait, ce qui est aussi extrêmement intéressant quand tu travailles sur des grands artistes, c'est de montrer à quel point ils nous parlent aujourd'hui. Donc il faut convoquer la bande dessinée, la musique, la littérature aussi, parce que je monte aussi des lectures musicales. Brassens, j'ai fait, j'ai proposé à plusieurs dessinateurs de travailler sur la figure de Brassens, en tout cas des chansons. Donc il y avait Alfred, Albin de la Simone qui est chanteur, ouais. David Prudhomme, Johann évidemment. Et
Johann Sfar.
Voilà, et en fait ça me semble très important aussi de montrer tous ces croisements de montrer, par exemple, mon grand-père travaillait sur Robert Doisneau et demandait aux Moriarty, les Moriarty qui ont plutôt une image de musique folk américaine, ça m'intéresse parce que tout d'un coup ça montre aussi l'ouverture et que moi j'ai beaucoup vécu au Japon et en fait au Japon on a une connaissance des images de mon grand-père, mais on a une connaissance aussi par exemple de la chanson française, exceptionnelle. Et parfois, j'ai eu l'impression qu'on percevait mieux mon grand-père, les images de mon grand-père là-bas qu'ici.
Qu'il y avait moins de clichés.
Beaucoup moins de clichés. Beaucoup, beaucoup moins de clichés, oui.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Mon rêve, que l'amour soit à mon oreille. Le chant des abeilles en été, un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la panse au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la panse, voilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve.
Barbara, du bout des lèvres.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Clémentine Deroudy et c'est passionnant. Nous parlons de ces grandes icônes françaises. Comment les défendre, les dépoussiérer sans tomber dans le populisme. Nous parlons de ce que c'est que l'esprit français. Alors, chère Clémentine Deroudy, vous avez d'ailleurs été la commissaire d'expo de la grande expo Barbara à la Philharmonie de Paris en 2018.
Ouais.
Mais ça ne vous a pas suffi. Car en ce moment, avec l'écrivain Arnaud Catrine, et chanteur, que j'avais d'ailleurs reçu ici, vous êtes en train de préparer, je crois que pour la Maison de la Poésie.
Alors non, ça va être au rond-point.
Oui, pardon, au théâtre du rond-point, un très bel événement Barbara, pour lequel vous vous plongez, c'est votre méthode, pendant des mois, vous vous plongez dans les archives et vous essayez d'entendre quelque chose de neuf.
Alors, de neuf, et puis surtout d'intégrer vraiment la personnalité sur laquelle je travaille. En fait, sur toutes les expositions, déjà, moi, je fais l'exposition, et puis je crée le catalogue, et puis souvent, je monte des lectures, parce que ça me passionne de créer des, voilà, des croisements entre la littérature et la musique. Et puis, bah, quand j'ai monté l'exposition Barbara, j'ai monté deux lectures, parce que j'avais fait toutes les retranscriptions, en fait, INA. Ouais. Donc moi, en fait, quand je démarre une exposition, je m'enferme pendant 3 mois, et je retranscris tout pour que la personne, en fait, j'ai vraiment sa voix, en fait. Je supporte
sa voix
plus
intime,
les commentaires.
C'est ça. Pour débarrasser l'éco-social, l'habitude, le
et
cliché.
Et surtout, en fait, j'en ai marre des gens qui m'expliquent comment les gens étaient, en fait. Non, moi, je vous les entends.
Vous repartez de zéro, toujours.
Je repars à zéro.
Sauf pour votre grand-père, parce que vous l'aviez reconnu.
Ah oui, mais mon grand-père, je suis partie d'archives. Non, j'ai réécouté beaucoup, beaucoup d'archives. Moi, j'ai commencé comme ça. Moi, je viens de la radio. Ouais. Donc, j'adore ça. Donc, en fait, et donc, de Barbara, j'ai fait toutes les retranscriptions. Je me suis dit, il y a une matière absolument incroyable. J'ai découvert aussi des correspondances, des lettres d'amour qui étaient comme des débuts de chansons. Et avec Arnaud, on a eu l'idée... Arnaud Catherine, pardon. On a eu l'idée de monter cette lecture à la Maison de la Poésie avec laquelle je travaille beaucoup parce que c'est une équipe absolument incroyable, cet endroit. Et donc, on a monté...
Et ce sera quand ?
On a monté cette lecture il y a 3 ans et elle a été jouée au 104 et là elle va être jouée au mois de novembre, tout le mois de novembre, par la grande comédienne Marie-Sophie Ferdan et le chanteur Olivier Marguerite. Et voilà, et mis en scène par Emmanuel Noblet.
Ouais, ça va être génial. Bon, on ira tous.
Génial.
On continue à se promener comme ça autour de l'esprit français, parce que je précise, évidemment, c'est ça qui est intéressant, qu'au fond, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein.
Non.
On parle comme si on savait, mais juste, on le cherche. Alors, autre idée, est-ce qu'il n'y a pas, et d'ailleurs Barbara, Brassens, on était déjà un peu sur ce terrain, dans l'esprit français, une allergie à une forme de légalisme. Vous savez, le légalisme un peu suisse, un peu allemand, un peu américain aussi. Cette espèce de façon de dire je respecte la loi, je pose pas de questions. Une petite passion pour la désobéissance légère.
Oui, certainement, certainement. Mais c'est vrai que moi, depuis hier, je réfléchis vraiment à ce que peut être cet esprit français et je n'arrive pas à le trouver.
Depuis que vous avez
vraiment.
Invité, c'est ça ?
Non, mais c'est drôle, c'est qu'en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui a en commun de toutes ces personnalités, même de Louis de Funès, de Barbara, de Brassens, etc. J'ai vraiment, vraiment du mal. Après, je me dis, bah, de Funès, oui, il était espagnol, d'origine espagnole. Brassens, il était italien. Barbara, elle était russe, d'origine moldave. Voilà, et donc peut-être que ça, c'est le pas de côté aussi. J'en sais rien, mais oui, alors ça vient avec l'esprit de sérieux, ça vient avec le fait, oui, le côté un peu bordélique. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le définir. Donc, oui, c'est vrai qu'on est très différents des Suisses, on est très différents des Japonais, mais...
Dieu merci, Antoinette épouse un Français, bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pâle, tu trouvais pas ? Notre petit bouton.
Et son cheveu sur la langue ?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il n'est pas juif.
Ben si.
Alors, on se demande un peu ce que fait Louis de Funès parmi les autres. Il est différent. Alors, vous avez, je crois, travaillé à la création du musée Louis de Funès à Saint-Raphaël.
Oui, à Saint-Raphaël. Ouais, on a monté un musée
projet.
En 6 mois. Ouais.
Ouais.
C'est la famille, c'est Julia et Olivier de Funès qui m'ont proposé avec le maire de Saint-Raphaël et le directeur de cabinet.
Julia de Funès, donc sa petite fille qui est aussi philosophe.
Qui est aussi philosophe, ouais. Julia, et qui m'a rencontrée, qui m'a dit, voilà, qui m'a proposé ça. Donc, je me suis plongée dans les archives familiales. Et puis après, j'ai croisé avec d'autres archives.
C'était pas un homme facile, je crois, très colérique, très...
C'était pas un homme facile, après c'était oui, mais certaines, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que j'ai perçu m'a passionnée, en fait, cet énorme travail. Moi, qui suis une énorme travailleuse aussi, ça me rassure beaucoup de voir aussi ces immenses carrières qui sont faites. En fait, elles sont jamais faites par hasard, elles sont faites aussi parce que c'est des gens qui ont consacré leur vie à leur métier. S'il est mort aussi assez jeune, c'est parce qu'en fait, il a bossé comme un fou, quoi. Et que le succès est arrivé assez tard. Et voilà, et que tout ça, c'est, en fait, aussi, c'est une technique, en fait, cet humour-là, le rythme.
Ouais, bah
le,
oui.
Voilà, et que ça n'arrive pas par hasard. Et ça, moi, je trouve ça passionnant, en fait. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette image de colérique, etc. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui était s'enfermé à travailler et qui ne voulait pas s'emmerder avec les autres. Et il avait raison aussi, de temps en temps. Et puis surtout aussi, alors là, c'est peut-être un peu un esprit français, mais souvent, ouais. Le succès est quelque chose d'un peu compliqué en France.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc, on a du mal avec les gens qui ont du succès. Donc, voilà. Donc, lui, l'important, c'était de travailler. Je pense que la plupart plupart, oui, de gens dont on parle, c'est ça. Hein. C'est des travailleurs fous. Enfin, Brassens, il se lève à 6 heures du matin, il travaillait la versification, il apprenait le latin, et ouais, puis bah, il travaillait aux chansons. Barbara, oui. C'est pareil. D'ailleurs, Charles Aznavour, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est des travailleurs fous. Mm.
D'ailleurs, tous les exemples que vous prenez nous amènent vers une autre piste. Est-ce que l'esprit français, c'est pas la langue française elle-même, finalement?
Alors,
on parle d'esprit, mais c'est peut-être quand on voit Brassens, Barbara, c'est tellement écrit. Est-ce que finalement, la meilleure façon de faire vivre l'esprit français, c'est pas la langue?
Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Le travail d'orfèvre des manuscrits de Brassens. Alors, vous savez, Brassens, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps. Et puis, il recopiait souvent de ses manuscrits qu'il offrait à ses copains. Ouais. Voilà, il avait tout un travail autour de son écriture. Mais effectivement, je pense que c'est ça. Et ce goût et ces croisements entre la littérature et la poésie, d'ailleurs. Ça, c'est mon petit pas de côté, mais souvent, en fait, pour parler de leur travail, on parle de poètes. Moi, je dis non, c'est pas des poètes, c'est des chanteurs. Ils écrivent de la chanson, et la chanson, c'est un art si particulier, si français, et on a cette chance d'avoir ces virtuoses de la chanson, c'est-à-dire c'est comment tu arrives à mêler des textes et une musique, c'est magnifique, en fait. Donc oui, je pense qu'effectivement, le trait commun de tous ces gens, c'est la langue française. On a une langue exceptionnelle, mais incroyable. Et oui.
Ça... Et le travail, comme vous l'avez dit, quand on voit par exemple les manuscrits de Proust à la BNF, c'est faut que tout le monde voit ça.
Exactement.
Il y a pas une demi-phrase qui soit pas ultra raturée, hachurée, réécrite. On sent que c'est très très difficile. Et d'ailleurs, tous les grands génies sont des immenses travailleurs. Léonard de Vinci mettait 7 ans à faire un tableau. Alors certes, il le faisait pas tout seul, mais donc et c'est ça aussi qu'on sent dans votre travail de commissariat d'expo, d'abord le vôtre, votre travail, mais cette espèce de dommage rendu en fait à quelque chose d'artisanal, à quelque chose d'assez laborieux, mais et l'élégance française, c'est peut-être que alors qu'il y a eu tout ce labeur, en fait de pas en faire des tonnes.
Surtout pas Brassens, il n'en parlait pas. Vous voyez l'image qu'on avait de lui, enfin en tout cas moi quand j'ai commencé à travailler sur lui, peut-être que j'avais une image totalement fausse de lui, d'ailleurs j'avais l'image d'un grand-père avec une pipe et tout d'un coup j'ai découvert un homme absolument sublime, italien, comme ça, qui faisait...
Torse nu et pas avec son vieux pull moisi là.
Ouais. Pas du tout, c'était un très très bel homme, c'était Agathe Fallet, la femme de René Fallet qui est une grande amie qui m'avait dit la première fois que je l'ai rencontré, dès qu'il arrivait quelque part, tout le monde le regardait et effectivement.
Il voulait être acteur. Je crois d'ailleurs.
Comment ?
Je crois qu'il voulait être acteur avant d'être chanteur, non ?
Vraiment très 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 rapidement. Et puis non, il voulait pas être chanteur, Brassens. Il voulait écrire pour les autres. Alors il voulait écrire au départ, et puis après il voulait écrire des chansons pour les autres. Il a proposé le parapluie à Yves Montand, par exemple. Et puis comme personne ne voulait de ses chansons, il s'est mis à les chanter lui-même. Mais effectivement, mon grand-père, 450 000 négatifs, jusqu'à pratiquement son dernier jour, il a travaillé. Mon grand-père Robert Doisneau, pour gagner sa vie aussi, hein. Ça aussi, on oublie aussi cette notion de...
Donc vous avez eu la chance de pas mal le connaître, en fait.
Ah oui, très très bien, oui. Tous les jours de ma vie jusqu'à sa disparition.
Jusqu'à quel âge pour vous ?
Moi, j'avais 20 ans.
Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui qu'on ne devine pas à travers ses photos ?
On devine, je pense, que c'était un être merveilleux. En fait, on a eu de la chance, en fait, de côtoyer le merveilleux. C'est un être d'une élégance rare. C'était quelqu'un, effectivement, qui a une vie pas forcément facile, mais qui se plaignait jamais. Et en fait, ouais. j'ai pris ça comme une forme de d'évidence, en fait. Donc, mais voilà, la curiosité, le fait d'être toujours à l'horizontale, ne jamais l'horizontale, c'est de regarder tout le monde pareil. Voilà.
Ah oui.
D'embrasser le monde. Et puis aussi, il disait toujours, pour être photographe, le plus difficile, c'est les 70 premières années. Parce qu'en fait, on pense aujourd'hui que il a eu énormément de succès, beaucoup d'argent, c'est un grand artiste, on le met à côté de Picasso, etc. Non, pas du tout. C'est un artisan, et puis à son époque, la photographie n'était pas du tout perçue comme elle est aujourd'hui. Ouais. C'était pas un art. Enfin, il n'a jamais vendu ses tirages. images. D'ailleurs, même ça le faisait doucement rigoler, en fait, qu'on puisse vendre ses photos. Quand on imagine aujourd'hui là où il est, c'est merveilleux. Et moi, ça m'émeut beaucoup, en fait, de voir ça. De voir qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont allées voir l'exposition. De voir qu'en fait, ils puissent réunir. Et ça aussi, c'est le commun de toutes ces personnalités. Des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, en fait, si, à travers ces figures-là. Moi, ce qui bouleverse aussi dans le travail de mon grand-père, c'est de savoir qu'il y a des ouvriers, il y a des intellectuels, il y a des... Voilà, qui vont se retrouver à un moment à travers et à côté de ces images. Comme la chanson, en fait. C'est ça. En fait, ça nous réunit. Et je pense que, voilà, on nous apprend à nous diviser. Et je pense qu'il faut au contraire apprendre à être ensemble et à être ensemble avec nos différences et nos différences de milieux sociaux.
Et d'ailleurs, pour être ensemble, eh bien, on peut aller voir Instant Volé, l'expo de Douaneau, la nouvelle expo, au musée Mayol jusqu'au 12 octobre.
Ouais. Incroyable. Ben, ça fait très très longtemps, ça fait presque 20 ans qu'il n'y a pas eu une grande exposition rétrospective de lui. Alors moi, je ne suis pas ayant droit, je ne travaille pas sur son travail. C'est ma mère et ma tante, et puis le musée Mayol et Tempora, qui est un grand producteur d'expositions, qui ont monté cette exposition, qui est absolument, mais vraiment exceptionnel. Et moi, ce qui m'importe, et quand j'ai travaillé sur mon grand-père, que j'ai convoqué les Moriarty, ou que j'ai fait le documentaire, ou que j'ai fait aussi des documentaires à la radio sur lui, c'était aussi pour montrer voilà, le caractère exceptionnel. Et c'est vrai que le grand succès, parfois, voilà, on a une espèce d'image un peu d'épinal, et tout d'un coup, de montrer l'énorme singularité, et puis le travail, on va découvrir le travail sur les mineurs, on va découvrir le travail, voilà, la banlieue en couleur, tout son travail en couleur, sur les artistes aussi, qui est absolument exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est un regard, et puis c'est un regard qui fait du bien et qui console en ce moment, et ça nous fait du bien, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde avec énormément de tendresse la vie, voilà, qui aime en fait les gens qui photographient, c'est merveilleux.
Vous pensez qu'il faut, 70 ans pour apprendre à ouvrir les yeux ?
Non, ça je pense pas. Je pense que ça, dès l'âge, et c'est là où on voit ça dans l'exposition, c'est que dès l'âge de 16 ans, il savait regarder.
Ouais.
Non, c'est de gagner sa vie qui est dit compliqué. Non, non, non. Ça, c'est vraiment quelque chose...
Et d'ailleurs...
T'as des prédispositions à la naissance aussi. Puis après, c'est tes lectures, c'est tes rencontres. C'est ce que tu vois, c'est ce que la manière dont tu choisis de vivre qui te nourrit, qui font que ton regard change.
Et là, il y a plein de photos inattendues. Notamment, il a beaucoup fait des photos de trucs mondains pour Vogue, par exemple.
Ouais,
ça, on ne sait pas du tout.
Vogue.
Et pour lui, c'était très alimentaire. Il en avait un peu honte. Enfin, il n'en parlait pas. Et puis finalement, il y a aussi une patte là qui apparaît. On le reconnaît aussi là.
En fait, on reconnaît... En fait, ce qui est génial dans son travail, c'est qu'en fait, on ne peut absolument pas différencier les travaux de commande et puis les travaux qu'il faisait aussi à côté. Vogue, il n'en parlait pas, mais parce qu'en fait, aussi, ouais. Personne ne lui demandait de parler de Vogue. En fait, il était absolument pas célèbre, mon grand-père. C'est-à-dire qu'il allait, même quand il allait photographier Picasso, quand il allait... Alors, il y a eu quelques-uns avec qui il est devenu ami. René Fallet, il était très proche. Et donc, il a connu Brassens, etc. et tout ça, mais il ne faisait pas partie de bande, en fait. C'était un petit photographe. Il était tout petit. Il allait partir en commande. Il a été salarié pendant des années à Vogue, et il a fait des photos absolument exceptionnelles des bals mondains. Ouais.
Si te quieres divertir. Que nació el flow.
Ey, bon, ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado a correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Hey.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
C'était Bad Bunny, Nueva Yol.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
C'est la sublime voix d'Arthur Teboul, chanteur de Feu Chatterton, qui chante au Panthéon pour la panthéonisation des époux manouchiens. C'est ça aussi l'esprit français. Et là, quand même, ça nous invite à rebondir un peu, parce que le côté anard de Brassens, mourir pour des idées, d'accord, oui, mais de mort lente, bah là, il meurt pour des idées vraiment, et de mort rapide. Donc, il y a une dialectique comme ça, dans l'esprit français, entre de l'impertinence, de la désinvolture, qui va un peu vers l'anard, vers l'exaspération par rapport au légalisme. Et puis quand même, il y a aussi parfois de l'engagement, il y a
oui,
des résistants.
Moi, je crois beaucoup plus à la résistance et à l'engagement. Ouais.
Donc finalement, oui, mais par rapport à Brassens...
Je ne suis pas Brassens, il y a des choses où je ne suis pas du tout
Vous n'êtes pas Brassens, mais vous êtes Doineau. Ouais.
Et puis surtout, il faut parler, je trouve que voilà ce qu'a fait Feu Chatterton, j'ai une immense admiration pour ce groupe et pour Arthur Teboul, mais que si on ne parle plus, si on ne travaille pas à la mémoire, c'est mon travail en fait,
oui.
En fait les gens sont oubliés. Et je pense qu'en fait, en ce moment, c'est essentiel de parler de ces résistants. C'est essentiel de parler des gens qui ont défendu la France, qui ont défendu une certaine idée aussi de notre pays et puis du monde aussi. Donc non, moi je suis pour la résistance. Moi là-dessus, ouais. Je ne suis pas du tout d'accord avec Brassens.
Et vous êtes aussi pour la mémoire vivante. Vous montrez dans tout votre travail qu'en fait, une mémoire, ce n'est pas objectif. D'ailleurs, c'est aussi valable dans le cerveau. Hein.
Complètement.
Les souvenirs ne sont pas des fichiers
Totalement.
PDF objectifs. Tous les souvenirs sont des réécritures, on le sait maintenant. Et c'est pareil au plan aussi d'un peuple, d'une nation.
Exactement. Moi, je sais que les premières expos, et puis la façon dont moi j'ai écrit mes expos et que j'écris mes films ou mes livres et tout, c'est très différent, mais c'était « Il était une fois ». Donc en fait, voilà, quel est le point de vue que tu adoptes, qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire, voilà. Et donc, il faut raconter des histoires, simplement. Mais...
Et justement, vous préparez une expo pour bientôt au Musée de l'Immigration,
oui.
Sur cinéma et immigration.
Ouais.
Racontez-nous un peu le projet, quelle histoire vous allez raconter ?
Eh bien, on va raconter une histoire qui n'a jamais été racontée, et ça, c'est absolument passionnant aussi, voilà, quand on parlait d'histoire.
Oui.
C'est-à-dire que si, en fait, on ne se penche pas, si les historiens ne se penchent pas, si on ne fait pas d'exposition, tout d'un coup, moi, je commence à découvrir des films qui n'ont jamais été... qui ont même disparu, hein, qu'on va numériser pour l'occasion, qui est comment le cinéma peut faire changer le regard sur l'immigration et puis terminer l'exposition pour montrer que notre cinéma d'aujourd'hui, c'est Taha Rahim, c'est Leila Bekhti, c'est Jamel Debbouze, c'est Camélia Jordana, c'est Afsia Esri, c'est tous ces gens...
C'est le cinéma français.
Ça, ça, c'est ça le cinéma français. Ouais. C'est aussi de se dire que Roche Dizem, il joue Yves Montand, c'est que Charles Aznavour, il a été interprété par Taharel.
Ouais, ouais.
Bah, c'est magnifique. C'est comme il y a plusieurs années, on ne se pose plus aujourd'hui la question de savoir que Lino Ventura était italien. Et que voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse de défendre et de montrer. Et donc, il y a quelque chose forcément d'un peu politique dans les expositions et dans le regard qu'on va porter. Donc, c'est une exposition que je pense qui va être très importante et j'en suis très, très heureuse, en fait, de travailler là-dessus.
Alors, Clémentine de Roudy, quand est-ce que vous vous sentez vraiment fière d'être française ?
Ouh là là, bah là, par exemple, quand je travaille sur ces expositions-là, ou quand je travaille aussi sur Belmondo pour la Cinémathèque, ça, là, je suis très très fière d'être française quand je vois ces êtres absolument ouais. magnifiques.
Donc là aussi, vous vous plongez sur Belmondo dans plein d'images d'archives, de sons.
Sur toutes les archives à la Cinémathèque, les archives de la famille, et puis j'essaie de raconter qui était Belmondo, en tout cas, surtout dans cette époque assez dure dans laquelle on vit, c'est tout d'un coup la joie, la joie, la joie, ouais, la ouais. joie. Et voilà, comment l'élégance de Belmondo, s'il y a bien eu un être élégant, c'est Belmondo, l'immense talent.
Ça va être où, ça, cette expo ?
C'est à la Cinémathèque,
ouais.
en octobre 26 aussi, et j'en suis infiniment heureuse, vraiment. Parce que là, c'est pareil, c'est comme un acte de résistance de parler de la joie. Et s'il y a bien quelqu'un qui l'incarne, c'est ouais. Belmondo. Puis en plus, il croise toutes mes passions, et notamment la bande dessinée, parce que c'est un personnage de bande dessinée, Belmondo.
Et vous allez aussi faire intervenir des dessinateurs, comme
oui,
à chaque
fois ? Oui, je l'espère, ouais. faire une bande dessinée sûr. Autour de Belmondo, oui. Mais oui, je l'espère.
Il y a des moments où vous avez honte d'être française ?
Ah bah ouais, hier par exemple, quand il y a eu la loi adoptée du plomb, ouais, là j'ai honte d'être française, l'année dernière aux législatives j'ai honte d'être française, j'ai honte de toutes les coupes budgétaires sur la culture, alors que c'est vraiment une fierté française et c'est vraiment une valeur française très forte. Je connais aucun pays au monde qui défende sa culture comme nous. C'est-à-dire, on a des musées, on a des salles de concert, des salles de spectacle. Et comme le disait si bien Eric Ruff au micro d'Inter hier, c'est vraiment c'est long, voilà, de créer tout cela, donc de couper tout cela. Oui, j'ai vraiment honte d'être française en ce moment.
Alors, on n'a pas parlé de quelque chose d'important dans, ouais. dans l'esprit français, c'est aussi la laïcité.
Ouais.
La laïcité, son histoire, la façon dont on pourrait aujourd'hui la faire vivre. Je vous propose d'écouter justement Johan Soar, avec lequel je montais souvent des expos, qui nous en parle très bien.
Il y a 50 millions de Français différents, mais il n'y a pas 50 manières d'être Français. Être Français, pour moi, ça passe par l'école laïque et républicaine. Moi, j'ai été élevé dans une passion pour la littérature française. J'adorais m'endormir en classe de première et me souvenir que d'une phrase sur trois, de Voltaire, de Rousseau, de Molière, de Musset.
La laïcité, alors, ça peut aller, si on radicalise un peu avec Brassens, même jusqu'à autre chose, qui est l'anticléricalisme. Mais si on respecte vraiment cet esprit...
C'est beaucoup plus compliqué chez Brassens, hein, mais bon.
Oui, c'est
pas bien, dites-moi. Ouais. Oui, c'est essentiel. Hein, c'est-à-dire qu'on... J'ai l'impression...
Non, mais non, dites-moi sur Brassens, vous voulez dire quoi ?
Brassens, c'était bien plus compliqué, en fait. Je pense qu'il croyait Brassens, mais ça... C'est... Je
oui,
pense
mais, que si, mais, c'est quelque mais la chose... Mais la foi, c'est pas l'Église. Il croyait, bien sûr, bien sûr.
Beaucoup plus complexe, vraiment. D'ailleurs, on n'a qu'à se plonger dans ses textes et ses chansons
pour se rendre compte
à quel point, en fait, il a eu tout un travail et toute une évolution autour de la figure du clergé et du catholicisme. Et c'est quelqu'un qui lisait la Bible et c'est quelqu'un. Non,
je crois que c'est. Mais je sais, mais
c'est
pas l'Église.
Et en fait, c'est très privé. Moi, je pense qu'aussi, surtout, en fait, en ce moment, on est obligé de tous affirmer. Moi, je trouve ça abominable, en fait, cette époque. Je pense que c'est aussi, on a besoin d'avoir nos chassins secrets, on a besoin d'avoir nos croyances.
Mais c'est ce que la laïcité permet, justement.
Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de défendre ces valeurs aujourd'hui, en fait. C'est parce qu'en fait, on est obligé aujourd'hui de dire ce qu'on pense, de quelle religion on est, etc. Mais en fait, laissez-nous tranquilles, en fait.
Alors, l'esprit français, c'est aussi cet art de la conversation qu'on est en train de mener. Oui. Ça, on n'en a pas trop parlé, cette grande conversation, l'esprit du 18e, ouais. Diderot, Voltaire. Ça aussi, vous militez pour ça, au fond ?
Ah bah, bien sûr. Mais en fait, c'est même presque l'essence même de mon travail, c'est-à-dire de la conversation, c'est d'être ensemble. C'est-à-dire que se retrouver à la table d'un bistrot. Alors là, ça rejoint l'idée de Brassens, hein, c'est ouais, Guano, ouais. peut-être. Mais en tout cas, d'essayer de faire des choses pour rassembler les gens. C'est pour ça que moi, je monte des rencontres aussi dans des festivals,
ah oui.
que je monte des spectacles, que je monte des expositions, parce que c'est ça, se rassembler, d'être ensemble, c'est converser. Et en conversant, et en n'étant pas d'accord aussi.
Comme nous, il y a 5 minutes.
Comme nous, ouais. il y a 5 minutes. Et puis aussi, d'être de cultures différentes aussi. Ça, c'est extrêmement important. De l'art de ne pas être d'accord, en fait. Moi, ça m'embête un peu toujours d'être avec des gens qui pensent comme moi, qui regardent comme moi. Non, en fait, on apprend avec les différences, on apprend avec des gens qui nous amènent à écouter, à regarder autrement. Et voilà, et c'est comme ça aussi qu'on se grandit.
Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toute ma vie pour que vous ayez le droit de dire ce avec quoi je suis en désaccord. Ça aussi, c'est l'esprit français.
Exactement, exactement, exactement. Réapprenons à nous écouter. Voilà. Réapprenons à converser. Alors, voilà. Alors, il faudrait apprendre à admirer et puis apprendre à converser.
C'était l'envie de m'étonner, lui, par le nom des rues. Alors, il me disait rue du Dessous des Berges, rue des Cinq Diamants. Bon. Moi, je disais, mais oui, mais tu ne connais pas l'endroit où on déroule du contreplaqué au Faubourg Saint-Antoine. Alors, il a commencé une série de balades dans la rue avec Prévert. Et là, il m'a appris des choses par son texte, me montrait que les mots usés pouvaient être remis en majesté. Donc, les décors usés du quotidien pouvaient, sous un certain angle, vu à un certain moment, avoir aussi leur beauté. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé mes balades dans Paris.
C'est beau, hein, donc c'est votre grand-père, Robert Doneau, qui parle de ce que Prévert lui a appris.
Voilà, ouais. Bah, l'enseignement, c'est-à-dire que c'est ça, c'est l'enseignement à travers des balades, des moments où tout d'un coup Prévert lui disait, mais tiens, regarde, voilà les noms des rues, mais ça peut être aussi Bob Giraud, qui est un personnage absolument incroyable, un écrivain ouais. qui l'a amené dans les Halles, qui l'a amené dans le Paris la nuit.
Bob Giraud, est-ce que c'est Robert Giraud des éditions du Dilettante
ouais,
ah oui, j'ai beaucoup lu Robert Giraud.
Bah, magnifique, ouais. magnifique Robert Giraud. Et Robert Giraud, qui est un grand, grand ami de mon grand-père, et c'est lui qui l'a amené à regarder aussi le Paris la nuit, le Paris des Halles, le Paris des prostituées, des tatouées, parce que les tatouées qui étaient à Maubert, enfin voilà, et qui est un espèce de Paris dont on ne connaît pas, enfin on ne connaît pas trop les images comme ça de mon grand-père, ouais. qui sont absolument magnifiques. Et voilà, et c'est l'autre en fait qui t'amène à découvrir, c'est l'autre qui t'amène à tout d'un coup ouvrir le champ des possibles.
Et c'est une définition de la poésie, hein, ce que dit Prévert, les mots usés, et c'est aussi Mallarmé, redonner un sens nouveau aux mots de la tribu, et c'est aussi ce que fait le photographe, votre grand-père, qu'on voit les choses autrement, que ça peut avoir l'air usé, des pigeons, un ouvrier, un baiser, mais il faut désuser.
Il faut désuser, puis surtout...
c'est votre travail aussi, le commissaire d'expo.
Et puis surtout de se dire qu'ils ont travaillé à une certaine époque, donc aujourd'hui les photographies sont en noir et blanc, etc. Mais en fait, je veux dire, aujourd'hui, s'ils photographient aujourd'hui, ils photographient exactement les mêmes choses, même si les décors sont différents. Et c'est ça aussi que je trouve absolument passionnant aussi quand on travaille sur Barbara, elle écrivrait les mêmes chansons, enfin, avec d'autres thématiques. Ouais. Mais je veux dire, enfin, les regards sont les mêmes. Mais absolument, absolument les mêmes.
Alors Clémentine Deroudy, votre but c'est de dépoussiérer, de rendre sensible, de rendre vivant auprès des jeunes. Alors on va essayer de faire le jeu de qui serait aujourd'hui, par exemple, qui serait le Brassens d'aujourd'hui.
Brassens d'aujourd'hui. Alors Brassens d'aujourd'hui, je parlerai d'un
Arthur Teboul peut-être.
Ah ouais, oui, enfin, grand poète. Alors Arthur Teboul, mais aussi dans le succès, dans cette manière de dire ah ouais. vous trompez de par qui je suis. Bob Dylan, parce qu'il y avait une forme de génie de la musique et voilà de la guitare. Je dirais aussi Gian Maria Testa, qui n'est plus là, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup pour moi à Brassens, voilà dans cette manière discrète et un peu révolutionnaire de faire son travail et poétique en fait. Ouais. Ouais.
La Barbara d'aujourd'hui.
Alors, je dirais, je sais pas si vous êtes déjà allé à un concert de Patti Smith, mais il y a quelque chose de très, très, très fort, absolument incroyable quand on est dans un concert de Patti Smith.
Donc, vous ne voulez pas citer de français, en fait.
Et, bah non, parce que pour montrer aussi les croisements et les étrangers, non.
Bah,
et sinon,
sûr.
Dans la nouvelle génération, il y a Clara Isé qui est absolument extraordinaire.
Ah oui,
j'ai
reçu ici,
Ouais, et qui a quelque chose d'un peu de...
C'est vrai. Vous avez raison.
Bien sûr, immense talent et...
Zao de Sagazan, moi j'adore sa chanson Au travers.
Bien sûr.
Il y a quelque chose quand même de bas, quelque chose.
Ah oui. Bien sûr.
Faire de nos travers nos forces et les métamorphoser.
Après, c'est vrai que c'est toujours les comparaisons parce qu'on est toujours singulier. Puis voilà. Mais si on doit jouer au jeu des sept familles, oui, bien sûr.
Non, mais comparaison n'est pas raison, mais admiration, c'est la solution. Évidemment, allez, on y vient. Le doigt d'eau d'aujourd'hui, il n'y en a pas, bien sûr, mais si on cherchait.
Il y en a plein. Et alors, moi, j'irais le chercher ailleurs que la photographie, même si effectivement, il y a Martin Parr qui est anglais. Mais je parlais de François Morel. Je trouve que François Morel a quelque chose de très, 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 très Doineau dans le regard qu'il porte sur le monde. dans ses chroniques, dans ses textes et dans ses pièces de théâtre. Voilà, il y a quelque chose vraiment appartient à la même famille. Dans le dessin aussi, Emmanuel Guibert, voilà, grand dessinateur qui a quelque chose pour moi de Doineau et beaucoup de dessinateurs en fait, puisqu'il y a quelque chose de très discret et qui croque le monde.
Magnifique, on a bien compris. C'est une superbe conclusion. Je vous demande qui renouvelle ces grandes figures françaises et vous ne choisissez que des étrangers pour venir vivifier, pour venir nourrir de l'intérieur cette France justement définie par cet accueil de l'altérité, par cet amour de l'hospitalité. Et bien, puisque moi je vous ai invité ce matin, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre. J'ai entendu beaucoup de choses, franchement. La curiosité, évidemment, l'admiration, le partage, et cette idée très belle, nietzschéenne au fond, que admirer, c'est se nourrir de la possibilité d'être soi-même plus admirable. On a aimé aussi cette philosophie du changement de regard, comme le proposait votre grand-père Robert Doineau. Apprendre à voir les choses autrement. Voilà, Brassens, c'est pas un petit vieux avec une pipe et un pull mité, c'est un mec baraqué en maillot de bain et qui est comme un bel acteur. Et puis Belmondo, la joie, Barbara, cette espèce de joie jusque dans l'adversité, cette capacité, peut-être, c'est la vraie élégance française, ça. Pas celle de la haute gastronomie nécessairement, mais celle de celui qui sait regarder la nuit et sourire et jouir de la journée. Merci beaucoup, Clémentine de Roudy. C'était vraiment un plaisir de se promener avec vous dans l'histoire de France sans tomber jamais dans le populisme. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Alicia Vulot avec à la technique Pauline Laverdure. À demain.